Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Tovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Alexandra Candilonguet. À la technique, Jean-Guy Limège.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique. Après avoir retracé cette semaine les origines de la richesse britannique, nous traversons aujourd'hui l'Atlantique pour sonder la croissance américaine à un an tout juste de l'élection présidentielle. La récession annoncée n'a pas eu lieu. L'économie américaine a mieux résisté que prévu, malgré la panique sur les marchés de cet été. La consommation des ménages tire la croissance, mais les inquiétudes demeurent. La réserve fédérale, la banque centrale américaine, a d'ailleurs abaissé mercredi ses taux directeurs pour la troisième fois en moins de 6 mois. Alors quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui sur la croissance américaine ? Qui a vraiment profité de la bonne santé de l'économie ? Et quel bilan tirer de la politique protectionniste de Donald Trump ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. À 14h50, on retrouvera la bibliothèque de l'Écho. Marguerite Caton a rencontré pour nous Mathieu Courtecuisse qui publie un nouvel essai, Le saut cognitif aux éditions First. Et pour parler des limites de la croissance américaine, 3 invités autour de la table. Bonjour Florence Pisani.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la recherche économique de Candriam, enseignante à Paris Dauphine et autrice avec Anton Brender de l'économie américaine parue à la Découverte l'an dernier. Pour discuter avec vous, Donna Kesselmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du travail, professeur à l'université Paris-Est Créteil et spécialiste du travail et des syndicats aux États-Unis. Et enfin, Christine Ajout, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes économiste à la Banque de France en charge du suivi macroéconomique des États-Unis et chercheuse associée au laboratoire d'économie d'Orléans. Léon, un grand merci à toutes les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Quand on a les meilleurs chiffres de l'emploi de toute l'histoire, les plus bas chiffres du chômage, quand on a la meilleure économie qu'on ait jamais eue, je ne sais pas, moi, comment diable pourrait-on perdre cette élection ?
Pour qui cette économie marche-t-elle vraiment ? Cela va très bien pour une couche de plus en plus réduite de la population. Cela fonctionne très bien pour les grandes compagnies pharmaceutiques, mais pas pour ceux qui veulent obtenir une ordonnance. Cela fonctionne très bien pour ceux qui veulent investir dans des prisons privées, mais pas pour les Afro-Américains et les Latinos, dont les familles sont déchirées, dont les vies sont détruites et les communautés ruinées. Cela fonctionne très bien pour les géants pétroliers, qui veulent faire du forage partout, mais pas pour le reste d'entre nous, qui observent le changement climatique.
Voilà, on vient d'entendre Donald Trump d'abord lors d'un rassemblement Make America Great Again à Montoursville en Pennsylvanie en mai, suivi de la sénatrice Elizabeth Warren. C'était lors du premier débat pour l'investiture démocrate au mois de juin. Alors on se souvient de la panique sur les marchés cet été et des craintes de récession de l'économie américaine. Or la croissance du troisième trimestre a finalement été plus forte que prévu aux États-Unis. Comment expliquer ce rebond inattendu dont évidemment Donald Trump n'a pas manqué de se féliciter dans un tweet, Florence Pisani?
Alors, faut faire attention, hein, c'est pas un rebond de la croissance américaine. La croissance américaine, elle décélère depuis un an. Et c'est normal, hein, elle croissait trop vite l'année dernière. Il y avait une grande réforme fiscale qui avait stimulé l'activité. Et depuis le début de l'année, bien, il y a moins d'effets, hein, de soutien budgétaire. Et donc, on a une croissance qui décélère. Et on avait aussi une banque centrale l'an dernier qui avait monté ses taux d'intérêt pour freiner l'activité parce qu'elle croissait trop vite. Donc on est dans une phase de décélération et c'est pour ça que les marchés s'inquiétaient, alors à tort, s'inquiétaient beaucoup trop, hein, de ce qui s'est passé, mais on était dans une phase de décélération de la croissance, mais c'est une croissance qui reste solide. Hein. On a 2% aujourd'hui de croissance aux États-Unis et c'est une croissance qui continue à créer des emplois.
Et alors comment expliquer que l'inquiétude avait été plus forte que ce que la réalité a finalement montré, Christine Ajoud, une croissance qui ralentit, mais qui ralentit moins que prévu?
C'est pas forcément moins que prévu, c'est peut-être moins prévu par les marchés. Un point que je voudrais peut-être souligner, c'est que la croissance américaine, même à 2%, à 9%, reste quand même légèrement supérieure à ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui serait la croissance qui ne génère pas des déséquilibres dans l'économie. Donc le fait que la croissance ait décéléré à 1,9 n'est pas quelque chose de mauvais, même si ça a été légèrement interprété par les marchés comme un signal négatif. Si on regarde quels sont les moteurs de la croissance, il n'y a pas de grosse surprise dans le sens où le moteur principal reste la consommation des ménages.
Il a encore été plus forte que ce qui avait pu être prévu.
Elle a, on va dire, décéléré peut-être moins que prévu. Elle reste assez soutenue parce qu'on a un marché du travail qui, lui, reste robuste et résilient. Et on a un taux de chômage qui est à des bas historiques et on a des hausses des salaires quand même qui restent soutenues. En revanche, la surprise un peu côté négatif, c'était l'investissement, où effectivement on a eu une forte décélération de l'investissement. Et c'est plutôt cette composante-là qu'on pourrait peut-être lier à des éléments d'incertitude, de politique commerciale, et ainsi de suite.
Il y a effectivement le recul de l'investissement des entreprises qui inquiète aujourd'hui Florence Pisani, parmi d'autres motifs d'inquiétude.
Alors c'est le paradoxe hein, de la politique de Donald Trump, puisque je rappelle que ce qu'il voulait, c'est avoir une croissance extraordinairement forte, et en particulier relancer l'investissement des entreprises par sa grande réforme fiscale l'année dernière, en baissant les taux d'imposition sur les sociétés. L'idée, c'est que l'investissement des entreprises repartirait. Et en fait, sa politique fait exactement l'effet inverse, c'est-à-dire qu'en créant de l'incertitude, en mettant des droits de douane, en créant de l'incertitude, eh bien, il conduit les entreprises à reporter leurs projets d'investissement, tout simplement parce qu'elles hésitent à investir, elles ne savent pas demain ce qui se passera.
Mais cette réforme fiscale de 2018, elle a tout de même produit ses effets, Florence Pisani. Il y a eu des croissances qui ont monté jusqu'à 3,5% l'an dernier.
Alors il y a eu un petit effet, pas forcément par là où on pouvait l'attendre, c'est-à-dire que ça n'a pas provoqué du tout d'explosion de l'investissement des entreprises. L'essentiel hein, des cadeaux aux entreprises ont été utilisés pour racheter des actions et distribuer plus de dividendes. Donc l'effet est relativement marginal. Il y a eu un petit effet parce qu'il y a eu une augmentation des dépenses publiques, ce qui n'était pas tout à fait ce qu'on attendait de la politique de Donald Trump. Et donc ça a produit un petit effet macroéconomique, ça a augmenté un peu la croissance. Mais il faut rappeler que cette réforme fiscale, du côté des ménages, a été extrêmement inégalitaire. C'est essentiellement les ménages les plus riches, les plus aisés, qui en ont profité. Et c'est les entreprises qui n'avaient pas vraiment besoin d'avoir de mettre plus d'argent de côté, qui en ont aussi bénéficié.
C'est un effet marginal parce que la réforme fiscale a stimulé l'économie à contre-temps, Christine Ajoud.
Alors certes, c'était pas le moment le plus approprié pour faire une relance fiscale. D'habitude, on fait de la relance quand on pense que l'économie est en dessous de son potentiel, ce qui n'était pas du tout le cas de l'économie américaine l'année dernière. C'est vrai qu'on attendait beaucoup du niveau de l'investissement. On attendait à ce que la baisse des impôts stimule beaucoup l'investissement. Alors, on a eu une augmentation dans l'investissement. Par contre, elle a été décevante par rapport à ce qu'on attendait. On attendait beaucoup plus de cette réforme fiscale. Donc, l'effet que Trump attendait peut-être au niveau de l'investissement, il n'a pas vraiment été là. Et on peut raisonnablement se poser des questions. Mais pourquoi est-ce que finalement l'investissement n'a pas réagi, n'a pas augmenté autant qu'on l'attendait?
C'est en tout cas difficile d'avoir une vision claire de la santé de cette économie américaine. On a l'impression d'avoir des signaux assez contradictoires, Florence Pisani, entre une croissance assez solide, comme vous l'avez dit, et en même temps, un marché de l'immobilier qui recule et un secteur manufacturier qui est à son plus bas en 10 ans.
Alors, le marché immobilier, il recule pas. Il est en train de repartir un peu parce que les taux d'intérêt ont baissé. Il a reculé. On voit qu'il redonne des signes à nouveau de réveil, tout simplement parce que le niveau des taux d'intérêt a fortement baissé.
Dû à la troisième baisse des taux directeurs par la Fed, on va y revenir.
Dû en partie à l'assouplissement monétaire. Mais si on revient juste, on a en fait aujourd'hui une combinaison de politique monétaire et de politique budgétaire qui est complètement absurde. C'est-à-dire que l'an dernier, le budget a tellement stimulé que la politique monétaire a été obligée de freiner. Et cette année, il y a tellement d'incertitudes créées par la guerre commerciale que la politique monétaire est obligée de prendre une politique d'assurance, c'est-à-dire de s'assouplir pour soutenir un peu l'activité.
Parmi les signaux négatifs, pour finir ce tour d'horizon des différents signaux auxquels on a accès aujourd'hui, il y a un rapport sur la compétitivité du Forum économique mondial de Davos qui vient de sortir et qui dit que les États-Unis sont passés à la deuxième place derrière Singapour. Comment est-ce qu'il faut interpréter ce résultat, Christine Ajoud?
Je ne pense pas que l'économie américaine ait beaucoup perdu en termes de compétitivité. Quelque chose que Trump met souvent en avant et qui peut effectivement jouer, c'est les mouvements du change. Quand le dollar s'apprécie ou se déprécie, ça peut jouer effectivement sur la compétitivité externe des États-Unis. À mon avis, l'élément quand même primordial reste l'incertitude, à la fois côté commercial, mais aussi du côté des différentes politiques économiques qui sont en place ou qui seront être mise en place à venir.
Tout va dépendre peut-être de l'issue effectivement de la guerre commerciale avec la Chine. L'ébauche d'accord qui a été signée ressemble davantage à une trêve. Florence Pisani, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui a été négocié entre les États-Unis et la Chine?
Alors, on ne sait pas encore ce qu'ils ont négocié. Il y a des fuites dans la presse, donc on ne sait pas bien ce qu'ils ont négocié. Mais c'est une première étape. C'est-à-dire qu'il est peu probable, et la Chine l'a dit hier, en fait, la deuxième étape, qui est la plus difficile, soit conclue. Donc pour l'instant, il s'agit vraiment d'une trêve et d'un accord a priori à minima. La Chine va importer un peu plus de produits des États-Unis, de produits agricoles notamment.
Mais ça, c'est essentiel, puisque effectivement, la guerre commerciale a pesé sur les agriculteurs américains qui font partie de l'électorat de Donald Trump, Donna Castleman.
Oui, absolument. Ils font partie de cette... Cet électorat Trump qui est constitué surtout de ce qu'on appelle les hommes blancs, soit dans le milieu industriel, soit en milieu rural. Oui.
Et ils ont donc particulièrement payé le prix de cette guerre commerciale, Florence Pisani?
Oui, alors il y a eu un peu de subventions. Donald Trump a mis en place des subventions pour les aider un peu, mais apparemment ça bénéficie aux plus gros propriétaires et pas aux petits agriculteurs, comme souvent dans ce cas.
Est-ce que vous diriez que la Chine a été contrainte de négocier avec les États-Unis? Elle est contrainte en ce moment de négocier parce que son économie ralentit?
Alors la Chine, elle est soumise à des forces de pression, une interne et une externe. Donc la pression externe, c'est cette guerre commerciale. Mais en plus de ça, il y a une accumulation de dettes par le passé qui a obligé la Chine à essayer de réduire un peu l'endettement et en particulier le fameux shadow banking, système de l'ombre. De crédits qui ont été accordés dans le secteur immobilier et qui sont pour beaucoup des crédits douteux.
C'est ce qui explique aujourd'hui quelle est sa plus faible performance depuis 27 ans, 6% de croissance au deuxième semestre 2019.
Donc cette réduction du rythme d'endettement, effectivement, ça pèse sur l'activité. Les autorités chinoises essayent de freiner cet endettement-là. Et le problème, c'est d'essayer, tout le jeu, c'est d'essayer de trouver des emprunteurs solvables. Donc vous prêtez d'abord un peu aux ménages, puisque ces entreprises se sont trop endettées, en particulier des entreprises d'État. Donc vous essayez de prêter un peu au ménage et puis vous augmentez aussi le déficit public. Mais on arrive à des niveaux d'endettement qui sont maintenant élevés un peu partout. Et donc le jeu, c'est d'essayer de continuer à trouver ces emprunteurs solvables en prêtant un peu plus aux petites entreprises. Mais ça, c'est difficile. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de système d'analyse de crédit. Et donc les banques restent réticentes à prêter à ces petites entreprises.
Christina Jaune.
Un point sur la Chine, effectivement, la Chine a intérêt à négocier un accord commercial avec les États-Unis dans le sens où la Chine et les États-Unis sont l'un des principaux partenaires commerciaux. La Chine engendrait en principe plus de pertes que les États-Unis en cas de guerre commerciale vraiment poussée. Après, les Chinois essayent petit à petit de diversifier vers le reste de la zone Asie leur commerce. Pour l'instant, ça se voit, mais dans une propension assez moindre. Mais peut-être à terme, ils chercheront justement à diversifier un peu leur base d'exportation en Asie.
On peut se demander si, effectivement, un accord pourrait véritablement émerger entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que, selon vous, ils pourraient réussir à s'entendre, Florence Pisani, alors que leurs intérêts économiques sont contradictoires?
C'est difficile, parce que ce n'est pas juste une rivalité commerciale. C'est vraiment maintenant une rivalité géopolitique. Ce que voudraient les États-Unis, c'est que la Chine arrête de monter en gamme. Et ça, la Chine n'acceptera jamais. Ce que voudraient les États-Unis, c'est obtenir des concessions en matière de droits de propriété intellectuelle, mais que ce soit inscrit dans la constitution chinoise. Et ça, la Chine n'acceptera pas, pour des raisons aussi internes, de se laisser dicter ce qu'elle doit faire par les États-Unis. Et donc, il y a une vraie rivalité géopolitique. Et donc, s'il y a un accord commercial, il risque d'être de façade.
Aujourd'hui, les discussions achoppent sur, par exemple, l'entreprise Huawei qui est aux États-Unis. Enfin, les États-Unis ont envie de garder une certaine souveraineté technologique et numérique.
Alors, ce qu'on a vu sur les dernières années, c'est qu'il y a eu une pénétration de la Chine dans l'électronique américain qui est assez étonnante. Et cette pénétration, c'est exactement ce que les États-Unis voudraient arrêter. Pour des raisons en partie qu'on peut comprendre, qui sont des raisons stratégiques. Et c'est ce que la Chine n'a pas du tout envie d'arrêter. Et du coup, on est sur deux superpuissances et une confrontation de deux grandes puissances. Et donc il y a peu de raisons qu'il y ait vraiment un grand accord.
Christine Ajoun, vous êtes d'accord avec ce pessimisme sur la difficulté à obtenir un accord ?
Je pense que c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis et de l'administration Trump de chercher un accord, d'autant plus dans la perspective des élections dans un an, parce que ce qu'on a vu jusqu'ici au niveau des effets dans l'économie américaine, il y a surtout de l'incertitude, il y a un peu moins d'effets durs, comme on dit, au niveau de la consommation et même des prix. Par contre, si toutes les mesures qui ont été annoncées par l'administration Trump finissent vraiment par rentrer en vigueur, surtout en fin d'année, l'année prochaine, on va commencer à avoir une hausse des prix conséquente qui va toucher les consommateurs américains et du coup qui risque un peu de péricliter les chances pour les élections prochaines.
Et c'est pour cela que Donald Trump critique régulièrement la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, puisque finalement, il aimerait que la Fed compense les mesures qu'il a prises sur le plan commercial, Florence Pisani.
Il fait plus que la critiquer, hein. Il profère des véritables injures vis-à-vis des membres et du personnel de la Réserve fédérale. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a assez peu en fait, de réactions au sein de l'establishment américain, en particulier au Congrès. On n'a pas vu vraiment de levée de bouclier contre ce que dit le président.
Comment l'expliquer? Et comment ça, cette absence de réaction?
D'abord, c'est dangereux parce que ça remet en cause la crédibilité d'une institution qui est pourtant relativement établie. Et c'est assez étonnant. Alors, il y en a qui s'opposent. Hein. Ceux qui s'opposent, c'est essentiellement d'anciens banquiers centraux. On a vu hein, Ben Bernanke, Janet Yellen se réunir et dire qu'il faut laisser la Banque centrale conserver son indépendance à la Banque centrale. Il y a une résistance en interne, à l'intérieur de la Réserve fédérale, qui s'organise. On voit des papiers de recherche publiés expliquant que l'incertitude commerciale, c'est une très mauvaise politique et ça freine la croissance. On a Jérôme Powell, le président, qui a fait des allusions, là aussi, il n'y a pas très longtemps, hein, à l'occasion d'un reportage sur un ancien président de la Réserve fédérale, un des pères fondateurs de la politique monétaire américaine, et qui a rappelé hein, la citation de Eccles, qui est sur le bâtiment de la Réserve fédérale, expliquant que la Banque centrale doit rester à l'abri des pressions politiques et des intérêts privés.
Et donc la décision de la Banque centrale d'abaisser ses taux directeurs pour la troisième fois depuis le mois de juillet doit être attribuée davantage aux inquiétudes autour du ralentissement de l'économie américaine, plutôt qu'aux pressions que la Fed aurait pu subir, Christine Ajoud.
Alors, il s'agit effectivement de la troisième baisse consécutive des taux d'intérêt que la Fed justifie par les mêmes arguments, c'est-à-dire l'accumulation de risques qui pèsent sur l'économie américaine, essentiellement des risques externes, effectivement, du côté de l'incertitude liée au commerce, du ralentissement de la demande mondiale et de la persistance de l'inflation sur le plan domestique. Je pense que la Fed se tient à faire des commentaires sur les différents tweets de l'administration Trump et ils ont réussi jusqu'ici à garder leur indépendance. Je ne pense pas
ils ne cèdent pas à la pression, selon vous.
Alors, ils réagissent à ce qui se passe dans l'économie américaine. Alors, probablement, de façon indirecte, l'économie américaine est affectée, certainement, d'ailleurs, par les différentes actions du côté de la politique commerciale. Mais eux, ils réagissent à ce qui se passe sur le marché.
Aujourd'hui, on a des taux directeurs aux États-Unis qui oscillent entre 1,5 et 1,75%. Alors, c'est bien plus élevé que les taux en Europe. Qu'est-ce que les précédentes baisses des taux avaient permis, Florence Pisani? Est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut interpréter le fait qu'a priori, il n'y aura pas de nouvelle baisse en décembre?
Alors pourquoi il n'y aura pas de nouvelle baisse, en tout cas pas si les conditions continuent de rester les mêmes? Parce que l'économie américaine, elle continue de croître. On est à 2%, on s'approche du plein emploi, le taux de chômage est très bas, on est à 3,6% de taux de chômage, et donc il n'y a aucune raison pour la Banque centrale de continuer à baisser ses taux. Elle les a baissés par assurance, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes. Si elle voit que l'économie résiste, elle n'a aucune raison de continuer à les baisser. Si demain il y avait de nouveaux chocs, un renforcement de la guerre commerciale, de nouvelles tensions, eh bien, elle continuerait à les baisser. Mais aujourd'hui, ce que nous dit la Banque centrale, c'est qu'il n'y a pas de raison
aujourd'hui de continuer à assouplir sa politique monétaire.
Il n'y a pas de raison de continuer à assouplir la politique monétaire, Christine Ajoute, vous êtes d'accord avec ça?
Selon les déclarations du chairman, on va changer la politique monétaire au moment où on verra une modification notable dans les perspectives économiques américaines. Qu'est-ce que ça peut être, cette modification notable, une détérioration, une dégradation forte de l'économie? Ils n'ont pas précisé. On peut raisonnablement se dire s'il y a une résilience de la consommation, mais par contre l'investissement, est-ce qu'il est faible? Quel est le dénominateur commun des deux? Ça pourrait être effectivement l'emploi.
Alors c'est difficile de se rendre compte de la réalité de cette croissance, on l'a dit, mais on parle beaucoup du fait que le cycle de croissance des États-Unis est inhabituellement long. On a du mal à savoir s'il faut se réjouir ou s'inquiéter du ralentissement prévu de l'économie américaine en 2019 et en 2020, Florence Pisani.
Alors il est inhabituellement long, mais c'est le plus faible de tous les cycles d'après-guerre. C'est-à-dire que si vous regardez le cumul de la croissance depuis le point bas qui était en 2009, on est à 20% au-dessus du point bas. Dans les cycles passés, on était à 30, 40, 50%. Donc c'est la reprise la plus lente depuis l'après-guerre. Et puis l'idée que, comme c'est une reprise très longue, elle doit s'arrêter, je crois qu'il y avait une phrase qui était très claire de l'ancienne présidente Janet Yellen de la Réserve fédérale, qui disait que les cycles, ils ne meurent pas de vieillesse. Et elle a profondément raison.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire que le cycle, il ne meurt pas parce qu'il est trop long. Il meurt parce qu'il se passe des choses dans l'économie. Il y a trop d'endettement accumulé, il y a des chocs sur l'économie, mais il ne meurt pas tout seul. Il ne s'arrête pas tout seul.
Alors il va falloir voir maintenant si cette croissance est inclusive et à qui elle profite. On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny. Yeah.
A dollar down the girl and stop the dime. Caught a penny nickel. Flipped it 25 to 50 cents. I watch the bitch cripple. Game simple. You hit a date tomorrow. You ain't know who the hell gon' save it. Franklin ain't gon' change the way you think. I took a buck 50 ballin' on a budget. Bought a Dutch quickly. Split it and I stuffed it with that chunky funky token. Man, that blonde did it. Saw with vivid dollars. Make the world pivot. Any nigga got it. Shit, skinny fun to get it. While it's getting good and hold it for a minute. Let that shit bubble. Weigh it up and chop it when it's finished. We gon' drop it when it's finished. Pull some dollars and some pennies. Like a dime relentless. Nappy niggas all about the vengeance. Not the dog, no. We talking about the dead prince. Slaw with the hog maul. She can wing a fed bread. Don't like the cash flow, spinning keep my focus. Spinning like a 20 picture skinny in a cold bed.
Spinning like a 20 picture skinny in a cold bed.
Boy, you know where money make the world go. Hustle up them pennies, now four four, it's real slow.
Dime, quarter, nickel, penny.
Damn, out of money, I'll be all about the binge.
Dime, quarter, nickel, penny.
Won't you get a nigga dollars and you got so many?
Dime, quarter, nickel, penny.
Damn, out of money, I'll be all about the binge.
Dime, quarter, nickel, penny. Won't you get a nigga dollars and you got
what you
so
want,
many?
Then Ricky said 100 for that. Pursue the happiness of running a sack. We could be felt like this, I don't need no crack. Weed smoke coming out the front of the lap. Under the mat and a gun in the back. Failed to realize we was going that fast. I blinked my eye, follow running my tags. Next time I travel somewhere dirty, I'ma come in the cab.
Well, I can't knock all the rocks you rock. Hell, I might cop on them yachts you got. You get props on the box you bop. Let's keep it all the way nappy. When you hot, you hot. Burn up a dime, sell a nickel out of quota. Throw a penny in the jukebox, damn it's out of order. Spinning now, fuels, bonus, silver spoons. The dollar value gets shorter as you get older.
Hey, come here for a minute. Don't tell nobody I told you. But
the dollar value gets shorter as you get older.
And I've been down it, down it, flying it. Jump my motorbike, doing about 100. One gun and I'm blind. Everybody fend for themselves. They tell me strong, I'm Robbie's only 10 on the show. Galloping ghost, slow, ferocious. Break down bones like osteoporosis. Opens in the Kroger, back stuff with explosives. Houses. To the White House, fuck all it bullshit. It's kind of funny, everybody love money to down. And only 3% control America's wealth. So somehow, look at yourself, sure you do. Feeling like fuck the world, me too. Can't get rich being complacent. You know you got it real bad when you can't make a payment. Water like Ice Cube for big faces. We living with races. Outrageous. My style. Take up stages. Contagious. Your baby don't have patience.
What my name is?
I'm Prophet. That's all.
Same the cadence.
Dime, quarter, nickel, penny, des Napier Roots sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. suite de notre discussion sur les limites de la croissance américaine en compagnie de Florence Pisani, Donna Kesselman et Christine Ajoud. Alors la question qu'il se pose maintenant, c'est évidemment celle des bénéfices de la croissance américaine. À qui est-ce qu'elle profite? Et alors, est-ce qu'on peut parler d'une croissance qui serait inclusive, Donna Kesselman?
C'est ça la question qui se pose quand on dit un taux de chômage de 3,6%, effectivement le plus bas depuis 1960. C'est un chiffre macroéconomique, mais effectivement ne reflète pas toutes les réalités. Déjà, si on prend les temps partiels non voulus, ou les travailleurs en dehors de la population active parce qu'ils sont arrêtés, ils ont arrêté de chercher de l'emploi, on est à 6,9%. À quoi il faut ajouter, par exemple, l'enchaînement des CDD, des travailleurs indépendants, chauffeurs VTC et d'autres qui n'ont pas de couverture sociale, d'autres qui ont un emploi ou plusieurs. Nous avons une situation où plus de la moitié des Américains disent ne pas bénéficier d'un bon emploi. Et j'ai entendu le mot incertitude par rapport à l'économie. C'est exactement le mot qui s'exprime par rapport aux travailleurs. Incertitude et aussi anxiété. Un niveau d'anxiété très important, d'autant plus qu'il y a énormément d'inégalités qu'il faudrait souligner.
Alors, le taux de chômage a tout de même encore reculé de 0,2 points en septembre, si on regarde les chiffres. Et on peut tout de même se demander, Florence Pisani, si c'est lié à la politique protectionniste de Donald Trump.
Alors c'est certainement pas lié à la politique protectionniste de Donald Trump, elle a exactement l'effet inverse. Cette politique, elle crée de l'incertitude et elle freine l'économie. Donc si l'économie résiste et qu'on continue à créer des emplois, c'est en partie, largement, à la politique monétaire, qui elle a l'effet inverse. Elle assouplit sa politique monétaire pour soutenir l'activité, qui permet à l'activité aujourd'hui d'être à 2%. Donc c'est certainement pas à Donald Trump qu'on le doit.
On se souvient de Donald Trump disant qu'il voulait recréer des emplois industriels aux États-Unis.
Alors en plus, il recrée peu d'emplois industriels. C'est-à-dire que même corrigé, si on corrige des effets de la grève de General Motors, il y a aujourd'hui un arrêt de la progression des emplois dans l'industrie. Le secteur manufacturier est entré plutôt en récession. Et quand vous regardez dans certains États, qui sont des États d'ailleurs importants pour Donald Trump, Détroit, on a un emploi dans l'industrie manufacturière, sans compter la grève de General Motors, qui baisse de 1,5%, alors qu'ailleurs dans l'économie, on crée 1,5% d'emplois.
Vous êtes d'accord avec ça, Christine Ajoud? Pardon de vous interrompre, Florence Pisani, mais sur cette peut-être le fait que les créations d'emplois seraient davantage liées à la politique monétaire menée par la Réserve fédérale?
Ce qui est vrai, c'est que l'introduction des tarifs douaniers, surtout dans les secteurs métallurgiques, on aurait pu espérer des créations d'emplois qu'on ne voit pas pour l'instant. Il y a quelques informations anecdotiques, mais il n'y a rien de consistant à ce niveau-là. Ce que la politique monétaire a effectivement permis, c'est que l'économie ne décélère pas trop et du coup qu'on conserve un niveau d'activité et un emploi conséquent.
Et si ces emplois ne se créent pas dans l'industrie, alors dans quel secteur est-ce qu'ils se créent, Florence Pisani?
Ils se créent un peu partout. Ils se créent dans les secteurs des services, dans les secteurs de la santé en particulier, dans les secteurs de services aux entreprises, dans tous les secteurs informatiques. Donc il y a des emplois qui se créent un peu partout, mais pas dans l'industrie. Et l'une des promesses, en tout cas de Donald Trump, qui était de ramener des usines sur le sol américain, elle n'est pas tenue. Cette promesse. General Motors, il y a eu un accord avec General Motors, mais General Motors va fermer quand même trois usines.
Alors justement, effectivement, General Motors a connu son plus long conflit social depuis 1970. Et alors, d'un côté, le syndicat des ouvriers automobiles a réussi à obtenir des hausses de salaire, et en même temps, effectivement, trois usines qui vont fermer. Alors, est-ce que c'est une réussite, ces négociations, cet accord, Donna Kesselman?
Il y a un désaccord sur cette question-là chez les travailleurs. Effectivement, les journaux locaux ont présenté ça comme une réussite. Il y a eu un engagement de la part de l'entreprise en disant qu'ils allaient créer ou maintenir 9000 emplois, mais c'est pas la première fois que l'entreprise prend des engagements et les respecte pas. Et par rapport à la création d'emplois, si on regarde très précisément la question des tarifs, il y a eu une création d'emplois dans les deux secteurs où il y avait une protection, c'était que l'aluminium et l'acier, sauf que dans les autres secteurs où il y avait les réponses européennes, par exemple dans les secteurs de motocyclettes par exemple, où il y avait un protectionnisme, il y a eu fermeture d'usine, il y avait quelque chose de très très médiatisé par exemple de Harley Davidson qui a fermé son usine aux États-Unis pour ouvrir la production en Europe afin de contourner les tarifs. Mais aussi par rapport à la création d'emplois, il faut savoir qu'il y a eu 400 000 emplois industriels créés, mais dans la suite, dans les États de l'Ouest des États-Unis, qui étaient déjà engagés dans la création d'emplois avant la présidence Trump, et on voit que c'est effectivement une continuité dans les secteurs comme la haute technologie, comme dans le pétrole, et aussi dans, par exemple, la voiture électrique, parce que les usines de Tesla sont dans le Nevada. Alors que si on regarde, il y a une étude très intéressante de la part du Brookings Institute qui a étudié les circonscriptions, là où les ouvriers, ce qu'on appelle l'électeur ouvrier de Trump, ces hommes blancs dans les États du Middle West frappés par la désindustrialisation et qui avaient voté pour Obama en 2012 et ont changé leur vote en 2016, qui a fait basculer les trois États, notamment la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, et qui ont fait basculer l'élection. Si on regarde dans ces circonscriptions-là, il n'y a pas eu d'inversement par rapport à la destruction de l'emploi. Donc ça, c'est très précis. Et toutes les questions, tous les yeux visent ces travailleurs-là pour voir quelles sont leurs intentions de vote pour les prochaines élections.
C'est un enjeu essentiel, effectivement, puisqu'on sait que Trump veut s'appuyer sur son bilan économique pour être réélu dans un an. Et justement, est-ce que vous pensez que ce vote ouvrier dont vous parlez se tournera à nouveau vers Donald Trump ?
Vous savez, il y a carrément la création de nouveaux domaines d'études qui est l'étude de l'électeur ouvrier de Trump. Il y a des batteries d'études et d'enquêtes par rapport à cette question. C'est difficile à lire. Par exemple, d'un côté, le Fox News, qui est une chaîne tout à fait pro-Trump, a fait une enquête très intéressante au mois de juin et qui a montré que, par exemple, ce fameux électorat des travailleurs blancs, hommes et femmes, avec peu d'études, quelle est leur position par rapport à la politique de Trump? Seulement 5% d'entre eux ont dit que la politique économique de Trump les favorise. Plus la moitié ont dit qu'ils payent plus par rapport aux tarifs. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils sont contre l'élection de Trump? Pour le moment, ça reste la population la plus majoritairement favorable de Trump, même si le pourcentage est baissé de 70 à 50%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres études qui montrent que ce n'est pas tant la question économique en tant que telle qui a fait voter cet électorat, mais le brio populiste de Trump qui a réussi à créer une espèce de haine, une haine de l'autre, une haine déjà de l'élite, hein, des grandes villes, qui est le populisme classique, si vous voulez, mais aussi de l'haine de l'étranger. L'étranger étant l'entreprise chinoise qui prend des emplois parce que les emplois ont été délocalisés, mais aussi l'haine de l'ouvrier mexicain qui vient prendre l'emploi, etc. Donc, le fait de jouer sur ce terrain-là peut rendre difficile la lisibilité des simples facteurs économiques.
Mais à l'heure du bilan, ça va tout de même être un petit peu compliqué pour Donald Trump de justifier toutes ces fermetures d'usines qui auront eu lieu pendant son mandat, Florence Pisani.
C'est compliqué, mais comme on vient de le dire, il fait pas seulement campagne sur l'économie, il a fait aussi campagne sur des thèmes identitaires, la protection, l'immigration. Recréer des usines, même s'il les recrée pas, l'électeur moyen de Trump, il a l'impression quand même que pour la première fois, on a un président qui s'oppose à la Chine. Et donc, la perception qu'on aura, l'électeur de Trump à la fin, ça se jouera pas forcément sur le fait qu'il y aura eu plus d'emplois créés dans le secteur manufacturier.
Et puis, par ailleurs, il y a aussi des hausses de salaires que l'on constate dans un certain nombre de secteurs. On peut revenir sur General Motors, donc, où le syndicat des ouvriers automobiles a obtenu des hausses de salaires. Et puis, il y a des négociations similaires qui ont commencé avec Ford, puis ce sera avec Chrysler. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces hausses de salaires sont de plus en plus importante et se développe de la Kesselman.
La hausse de salaire est tout relatif. Hein. Ça fait seulement depuis un an, alors qu'il y a 108 mois de croissance, comme on vient de le dire. C'est comme une croissance très lente. Ce n'est depuis un an qu'il y a une augmentation de salaire et grâce aussi à un marché du travail plutôt serré. C'est très relatif, mais la situation économique des travailleurs est très précaire. Il y a une étude qui a montré que plus de la moitié, 40% des travailleurs disent ne pas pouvoir sortir $400 en cas d'une urgence Et donc, qui sentent cette incertitude, cette anxiété est très présente. Et il y a d'ailleurs les prêteurs de subprime qui avaient été mis en échec par beaucoup de mesures avant commencent à revenir sur le subprime de prêt des voitures, de prêt aussi de la consommation. Donc la question est très inégalitaire.
Et puis en même temps, ce qu'on constate, c'est que le rapport de force, comme vous l'avez dit, il s'est peut-être transformé de telle sorte que ces hausses de salaire peuvent être demandées puisque on est proche du plein emploi, comme vous le disiez, Florence Pisani.
L'essentiel, en fait, de la politique sociale américaine, elle passe par le maintien du plein emploi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique sociale ou très peu. Il y a une politique sociale qui est réduite aux besoins vitaux. Il y a des bons alimentaires, mais il y a très peu d'indemnisation du chômage. Il y a beaucoup encore de gens qui n'ont pas d'assurance santé. Il y a un taux de pauvreté qui est extraordinairement élevé. Et donc l'essentiel de la politique sociale, c'est le maintien du plein emploi. C'est la seule façon, quand l'économie s'approche du plein emploi, c'est le seul moment où on voit les salaires et la situation des gens qui sont au bas de l'échelle s'améliorer un peu. Donc plus cette économie va rester au plein emploi longtemps, et plus on verra les salaires du bas monter, ce qui arrive malheureusement assez rarement dans l'histoire des États-Unis.
Donna Kesselman.
S'il y a eu augmentation de salaire aussi, ne pas oublier le mouvement pour les 15 dollars de l'heure qui est très important. Voilà. Et donc effectivement qui a traversé le pays, qui était très important pour les bas salaires, mais ça aussi, ça a un effet temporaire.
Alors il faut rappeler peut-être, Donna Kesselman, que ce mouvement Fight for 15, donc pour obtenir un salaire minimum à 15 dollars, est né en 2012. Qu'est-ce qu'il a obtenu, ce mouvement ?
Obtenu que effectivement il y a plus d'augmentation de salaire pour les travailleurs depuis 2012 que depuis une génération. Donc pour ce secteur de bas salaire et de salaire minimum, mais encore 15 dollars de l'heure à New York, qui était le point de départ du mouvement, le calcul, 15 dollars de l'heure, c'est pour une famille de deux personnes, donc un parent seul avec un enfant, pour pouvoir survivre. Donc ce n'est pas énorme. Aussi, il y a cette instabilité de travail, le fait que beaucoup de travailleurs ont plus d'un emploi. Donc c'est effectivement un progrès, mais ça ne veut pas dire que le plein emploi, il ne faut pas comprendre le plein emploi comme la stabilité que ça représentait avant.
Mais il y a quand même un mouvement de fond auquel on assiste, et de plus en plus d'États d'un côté et d'entreprises qui adoptent ce salaire minimum à 15 dollars, Donna Kesselman.
Absolument, c'est très important, mais encore une fois, étant donné l'instabilité de travail, le fait qu'il y a une rotation de travail très importante, qu'il y a cette incertitude par rapport à l'avenir, c'est difficile, comme on disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus une question de souvenir aux besoins qu'une vraie augmentation de niveau de vie.
Et par ailleurs, cette augmentation du salaire minimum, c'est l'objet de débats entre les économistes. Quel est votre point de vue là-dessus, Florence Pisani? Parce qu'il y en a certains qui disent que c'est une mesure qui finalement détruit des emplois, et d'autres qui disent qu'au contraire, ça permet de réduire la pauvreté.
Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a très peu de gens en fait qui sont payés au salaire minimum. Donc c'est une fraction de la population. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de revalorisation par contre du salaire minimum, ça a fait pression sur toute l'échelle des salaires. C'est-à-dire quand vous étiez, et c'est typique de l'économie américaine, quand vous étiez un travailleur de classe intermédiaire, travailleur dans l'industrie manufacturière, et que vous perdiez votre emploi, vous aviez peu d'autres solutions que soit de quitter le marché du travail, soit d'essayer de retrouver un emploi moins bien payé. Et vous avez fait pression à la baisse sur le bas de l'échelle des salaires. Et le fait qu'il n'y ait pas de plancher, parce que le salaire minimum n'a pas été revalorisé pendant des années, eh bien ça a laissé cette pression à la baisse se matérialiser. Et ça a dégradé la situation de beaucoup d'Américains. Donc le fait de revaloriser le salaire minimum, ce n'est pas une mauvaise chose en soi.
Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que, justement, c'est une mesure qui détruit des emplois ?
C'est ce qu'on ne constate pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie américaine, y compris dans le commerce de détail, là où le salaire minimum est important, elle crée des emplois, en particulier dans le commerce de détail.
Sur ce marché de l'emploi, Christina Jude.
Après la crise économique qu'on a eue aux États-Unis et un peu partout, mais spécialement aux États-Unis, un problème avec le taux de participation qui avait beaucoup diminué. Donc il y avait beaucoup de travailleurs en marge, voire carrément en dehors du marché du travail. Alors plus récemment, on voit une timide augmentation du taux de participation. Donc il y a de plus en plus de gens en situation précaire qui rentrent de nouveau sur le marché du travail. Donc c'est une tendance positive. C'est d'ailleurs un des éléments qui a été souligné par la Réserve fédérale lors de la dernière baisse des taux. Et tout l'enjeu est de prolonger autant que possible cette expansion économique pour ramener le plus de gens possible sur le marché du travail.
Donna Kesselman.
Mais en effet, effectivement, en termes macroéconomiques, il y a une augmentation. On voit arriver, donc, par exemple, les travailleurs handicapés plus qu'avant, aussi certains retraités, qui n'est pas nécessairement un bon signe parce qu'effectivement c'est un besoin économique. Mais encore une fois, il y a des inégalités. C'est-à-dire que si on regarde dans un État comme le Michigan, vous avez donc généralement par rapport à la statistique, il y a trois fois plus de travailleurs en dehors du marché du travail qu'il y a une génération, et avec des inégalités énormes. Dans une ville comme le Flint, Michigan, il y a 35% de travailleurs en âge de travail qui ne font pas partie du marché du travail parce que ils ne recherchent plus, parce qu'ils sont découragés, alors que dans un État comme le Virginie, etc., c'est 3 ou 5%. Donc encore une fois, ces inégalités géographiques et industrielles qui se creusent et qui posent énormément de problèmes sociaux.
Le conflit social à General Motors permet en tout cas de relancer la question du rôle des syndicats. Donc on le disait, ces hausses de salaire obtenues par le syndicat des ouvriers automobiles, le United Auto Workers. Est-ce que vous diriez que cette victoire relative, on l'a vu, marque un certain retour en force de ce syndicat américain de l'automobile, Donna Castleman?
Alors, le syndicat des travailleurs d'automobile, ne pas oublier, il y avait une grève en 1970 où il y a eu 470 000 travailleurs qui ont fait grève, la grève a eu comme conséquence de perte d'1% du PNB de l'économie. Cette fois, il y a 55 000 travailleurs qui ont fait grève, qui n'a pas eu le même effet. Le travail des syndicats d'automobile, effectivement, c'est un syndicat très important et qui d'ailleurs qui organise les travailleurs au-delà de ce secteur. Mais je pense qu'il faut souligner depuis un an l'augmentation des grèves aux États-Unis plus généralement. En 2018, il y a eu plus de 500 000 travailleurs en grève, qui est le nombre le plus important depuis les années 80. La durée des grèves était le plus important depuis une vingtaine d'années. Et ça aussi, c'est un effet du plein emploi. C'est-à-dire que les travailleurs disent, il y a eu une augmentation des bénéfices des entreprises, nous on veut notre part de gâteau, on a fait des sacrifices pendant le temps de l'austérité et on veut voir notre part de gâteau. Et c'est intéressant, très intéressant, la grève chez les enseignants, dans les écoles du Nord comme du Sud des États-Unis, non syndicalisés. C'est un sentiment de justice. Justice pour les élèves, justice pour l'école publique. Les revendications ont toujours été, certes pour le salaire, mais aussi pour la réduction du nombre d'élèves dans les classes et pour l'investissement dans le personnel autour des écoles. Donc carrément une question de défense du service public. Donc c'est intéressant.
Et quel est le rôle des syndicats dans ces mouvements sociaux dont vous parlez? Syndicats qui, aux États-Unis comme en Europe, a connu un très fort affaiblissement depuis ces dernières décennies.
Il faut dire que les syndicats reviennent sur la scène politique. Quand on regarde par exemple ce qui se passe en Californie avec la loi qui s'appelle AB5 et qui crée la présomption du salariat dans les entreprises contre le salariat déguisé, c'était soutenu largement par les syndicats. C'est très intéressant parce qu'en gros, c'est une guerre contre les VTC, Uber et Lyft, qui c'est le Silicon Valley, contre les syndicats. C'est les deux soutiens les plus importants du Parti démocrate en Californie. Et c'est les syndicats qui ont remporté le lot pour le moment. Et c'est intéressant parce qu'ils ont eu ce soutien de la population aussi. Donc on va voir ce que ça donne. La loi n'est pas aussi puissante que ça. On sait que de toute façon, quelle que soit la loi de travail aux États-Unis, le gouvernement a du mal à l'appliquer. Mais c'est quand même la place du syndicat qui commence à être entendue pour la première fois depuis longtemps.
Un retour en force des syndicats qu'il faut relier à la politique menée par Donald Trump, Florence Pisani.
Il faut faire attention, c'est pas un retour en force. Le taux de syndicalisation, c'était 30%. Après-guerre, il est à 10% aujourd'hui. Donc il y a quand même eu une érosion continue du poids des syndicats.
Mais des victoires syndicales sont assez visibles, en tout cas.
Il y a une victoire. Alors c'est discuté. Certains disent qu'il y a quand même eu 3 fermetures d'usines pour General Motors. Donc il y a eu des acquis d'un côté, mais des pertes de l'autre.
Mais pour le cas d'Uber en Californie, on peut considérer que c'est une avancée.
Mais il y a des avancées, oui, bien sûr. Mais c'est toujours comme ça dans l'économie américaine. C'est-à-dire que c'est des grands mouvements de balancier. Et le maintien du plein emploi est plutôt favorable à ça. C'est-à-dire que plus l'économie reste restera longtemps en plein emploi, plus on pourra voir ces mouvements syndicaux s'organiser et regagner un peu de pouvoir et peser effectivement hein, sur le faire pression un petit peu pour faire remonter un peu les salaires.
Quelles étaient les causes, Donna Castleman, de cet affaiblissement, les grandes causes de cet affaiblissement du syndicalisme aux États-Unis?
Ben, les mêmes causes dans tous les pays. Déjà le tournant vers le néolibéralisme des années 70, qui était très important et qui a remis en cause les bases industrielles parce que le syndicalisme a été surtout dans la grande industrie, mais qui prend des proportions beaucoup plus importantes parce qu'on sait bien que l'État social est moins présent et que la plupart des avantages sociaux sont au niveau de l'entreprise qui étaient négociés dans les contrats collectifs, les négociations collectives locales. Donc ça a un effet élastique beaucoup plus fort. Mais y compris par rapport, entre guillemets, disons, remet sur scène des revendications en relation avec le travail, qui n'est pas n'importe quoi, à l'ère des revendications identitaires, que ce soit, et qui sont importantes, hein, les questions identitaires, les questions de l'environnement, mais le fait que les questions de travail soient remises à l'ordre du jour, y compris sur la scène politique, ce n'est pas une mince affaire. Mais là aussi, ça relève des inégalités géographiques, parce qu'on voit bien que c'est en Californie, New York surtout, aussi à Chicago, où les syndicats sont forts, où ça se passe surtout, mais dans d'autres États du Sud, etc., c'est beaucoup moins présent.
Vous avez consacré un long article, Donna Castleman, aux différents modèles de syndicalisme. Vous parlez d'un côté de l'ancien modèle, peut-être, qui est l'organizing, et du nouveau modèle, le servicing. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux modèles et comment, justement, le syndicalisme essaye de se réinventer aujourd'hui aux États-Unis?
Oui, c'est déjà... Honnêtement, c'est par tous les bouts possibles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la loi de syndicalisation aux États-Unis permet seulement aux salariés, donc aux employés, si vous voulez, qui ont un rapport de subordination et un contrat de travail, de pouvoir se syndicaliser. Or, il y a beaucoup d'autres travailleurs, des services qui sont pas nécessairement, qui ont pas nécessairement un travail au moins à 30 heures par semaine permettant la syndicalisation, ou bien des travailleurs dont les secteurs précarisés qui ne peuvent pas se syndicaliser. Donc il y a des associations de travailleurs qui organisent leurs intérêts et qui avant étaient mal vues par les organisations syndicales, mais depuis finalement sont de plus en plus il y a un partenariat de plus en plus important. Un exemple très important, c'est par exemple l'association des travailleurs des chauffeurs de New York, qui organise à la fois les chauffeurs de taxi et les chauffeurs VTC, et dont la secrétaire générale, même si elle ne peut pas être formellement en syndicat selon la loi fédérale, est membre associé de la AFL-CIO. Donc on voit de plus en plus que les différentes associations travaillent de plus en plus ensemble. Il faut dire que la situation est très grave, qu'on essaie de renouveler par tous les bouts. Mais le tournant était sous le gouvernement Obama, quand le gouvernement Obama n'a pas tenu sa promesse de réformer le droit de travail pour faciliter la syndicalisation, qu'il y a eu tous ces mouvements sociaux, Occupy Wall Street, Fight for 15, etc., que ça a explosé sur le terrain revendicatif de base.
Avec tout de même un certain nombre d'avantages, enfin de progrès réalisés, comme on l'a vu. Alors, on arrive presque au terme de cette émission. Un mot de conclusion, peut-être, sur l'avenir de cette économie américaine à l'heure du ralentissement de l'économie mondiale, et peut-être sur un sujet qu'on n'a pas encore abordé, qui est la question de l'endettement, à la fois endettement public et endettement privé, dont il faut peut-être s'inquiéter, Florence Pisani.
Alors c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Je pense qu'il y a un degré d'inégalité qui est assez étonnant hein, aux États-Unis, qui est loin d'avoir été résolu. Si je devais citer juste un chiffre en conclusion, les 0,1% qui gagnent le plus ont une part dans le revenu qui est la même que les 50% du bas. Donc ça vous donne quand même une idée hein, du degré d'inégalité aujourd'hui dans l'économie américaine. Honnêtement, l'endettement public, oui, il est monté, mais c'est pas quelque chose qui me paraît extrêmement préoccupant aujourd'hui.
Et alors, s'il y avait quelque chose qui vous paraissait préoccupant, ce serait davantage cette question des inégalités.
Cette absence de progrès social. Mmh.
Christina Joud.
Un élément d'inquiétude sur le côté financier, c'est l'endettement des entreprises. Alors, les ménages se sont désendettés, ils sont en cours de désendettement. Par contre, les entreprises ont beaucoup augmenté leur endettement, et notamment l'endettement risqué. Alors, comme on a pu voir avant la crise, c'était les crédits subprime des ménages. Aujourd'hui, on a des crédits similaires du côté des entreprises qui peuvent poser un certain nombre de risques.
Donc c'est un facteur d'inquiétude aujourd'hui au niveau macroéconomique. Qu'est-ce que vous diriez, Donna Castleman, sur l'avenir de cette économie et sur les inégalités qui, comme on l'a vu, continuent de se creuser?
Sur cette question de stabilité, de pouvoir compter sur l'avenir, d'avoir un emploi réellement, on peut planifier son avenir, planifier sa vie de famille. Et effectivement, c'est relié dans tous les pays aussi sur la question de l'organisation des défenses des intérêts collectifs.
Une économie en tout cas qui est surveillée de près, Florence Pisani, parce qu'évidemment toutes les économies du monde dépendent des États-Unis et qu'aujourd'hui le ralentissement mondial est largement lié peut-être au ralentissement américain.
Alors le ralentissement mondial n'est pas lié au ralentissement américain, parce que le ralentissement américain c'est quand même un des plus faibles au niveau de l'économie mondiale. Mais en tout cas, la politique effectivement commerciale de Donald Trump, elle crée de l'incertitude qui pèse sur l'ensemble des économies, la Chine, mais aussi, aussi l'Europe.
Merci beaucoup Florence Pisani, Donna Kesselman et Christine Ajoud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Florence Pisani, je rappelle le titre de votre ouvrage, L'économie américaine, écrit avec Anton Brander et publié à La Découverte l'an dernier. Lundi, Le Temps du débat s'intéressera également aux États-Unis. Trump est-il un personnage de roman? C'est la question qu'Emmanuel Laurentin posera à ses quatre invités à partir de 18h20. Et de notre côté, on va continuer évidemment à suivre de près les débats économiques qui vont animer cette campagne présidentielle. Mais d'abord, il est temps pour nous de retrouver la bibliothèque de l'écho. Marguerite Caton de l'équipe d'Entendez-vous l'écho a rencontré pour nous Mathieu Courtecuisse qui vient de publier Le saut cognitif aux éditions First. À ses yeux, l'intelligence artificielle est une véritable révolution qui a déjà commencé à bouleverser toute l'économie.
Déjà des secteurs qui ont été très largement bouleversés ces dernières années. Hein. On pourrait citer la faillite récente de Thomas Cook, par exemple, dans le secteur du tourisme. Dans le secteur du transport, c'est la même chose. On voit Uber qui a bouleversé le monde des taxis. Et puis demain, c'est la même chose dans le secteur de la banque, dans la pharmacie, dans le monde de la santé.
Vous attendez beaucoup de la voiture autonome en ce qui concerne le secteur des transports.
Effectivement, la voiture autonome représente un espoir très important en matière d'espérance de vie, puisque la mortalité sur les routes reste très élevée à l'échelle mondiale. C'est un des tout premiers facteurs de mortalité à l'échelle mondiale. Et la voiture autonome permet en théorie de réduire à près de 90% cette mortalité.
Tous ces espoirs dépendent de l'alimentation de super ordinateurs qui bientôt seront tous quantiques. Alimentation par une multitude de données qui sont transmises par des capteurs qui sont de plus en plus nombreux dans nos vies. La dataification du monde, comme vous le dites, elle ne va faire que s'amplifier.
Oui, alors il y a deux écoles mathématiques qui s'opposent quand même dans ce débat. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une séquence où il faut accumuler un maximum de données. C'est vraiment celui qui possède la donnée qui a le pouvoir. Dans 10 ou 15 ans, ça sera peut-être un petit peu différent puisque va se développer une autre forme d'intelligence artificielle, une intelligence artificielle dite portative, qui sera beaucoup moins consommatrice de données puisqu'un certain nombre d'algorithmes auront déjà été établis.
La donnée perd de la valeur au fur et à mesure qu'on l'utilise.
Oui, c'est pour ça que certains évoquent une valeur de la donnée, la propriété, le patrimoine de la donnée, mais ils omettent le caractère volatile de cette valeur. Et en effet, marginalement, accumuler des données peut perdre en intérêt, et aussi en fonction des usages, ça peut aussi perdre de l'intérêt au fur et à mesure du temps. Donc il faut être très prudent sur ces approches-là. C'est pour ça que moi je préconise plutôt une approche autour de la régulation de la donnée, ne pas s'occuper du démantèlement des ce qu'on appelle les GAFA, etc., mais plutôt de réfléchir à ce qu'est la donnée et avoir une approche réglementaire intelligente et dynamique des choses, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas de monopole qui se construise autour de cette donnée.
Vous parlez de deux approches mathématiques de la donnée.
Oui, par exemple, Cédric Villani est plus sur une approche très mathématique pure. Donc, il dit qu'en fait, la donnée n'a pas tant d'importance que ça. Et d'autres, qui sont plutôt dans la Silicon Valley, considèrent qu'au contraire, c'est la donnée qui est fondamentale. Donc on a, c'est la quantité de données qui sera le juge de paix de la qualité des algorithmes qui vont venir.
On est en période de transition.
Disons qu'aujourd'hui, comme on dit, cash is king, c'est-à-dire que c'est quand même ceux qui ont accumulé les données qui sont les rois du monde un petit peu aujourd'hui. Donc on peut plutôt partir du principe qu'aujourd'hui ils ont raison. Peut-être que ça sera moins le cas demain, mais ça sera surtout en fonction des domaines d'application que les choses vont évoluer.
Derrière la fourniture de nouveaux services que vous détaillez dans votre ouvrage, vous montrez aussi, Mathieu Courtecuisse, la structure industrielle qui s'est déjà solidement constituée. Vous dites qu'il y a déjà des gagnants. À grands traits, on a d'un côté les GAFAM américaines, de l'autre les bâtisses chinoises, l'Europe complètement à la traîne. Est-ce que la tech européenne est vraiment inexistante? Comment analysez-vous ce retard?
Aujourd'hui, l'économie européenne représente bon an mal an 25% du PIB mondial. La tech européenne représente moins de 2% de la tech mondiale. Donc en fait, si on considère que le secteur de demain, c'est la tech d'aujourd'hui, au fond, on sait qu'on a déjà un énorme problème structurel. Et ce problème structurel, il a des racines très profondes qui viennent de la nature du capitalisme européen.
Un capitalisme cognitif.
Oui, le capitalisme cognitif, c'est l'alliance en fait entre le capitalisme traditionnel et l'économie de la connaissance. Et la réalité, c'est que l'Europe et la France en particulier a raté cet épisode. J'en peux pour preuve le débat aujourd'hui autour de la réforme des retraites. À aucun moment on évoque les fonds de pension. Or, aujourd'hui, la réalité, c'est que la tech américaine est l'enfant des fonds de pension américains. Et que il ne peut pas y avoir une puissance technologique sans puissance financière organisée. Aujourd'hui, l'épargne européenne va vers l'alimentation des dettes souveraines au lieu d'aller vers la tech.
Ah, on a vu là des annonces dans le secteur de l'assurance. Les fonds collectés sur les assurances vie devraient être réorientés en dehors des fonds en euros.
Oui, mais il y a une barrière réglementaire, ce qui s'appelle Solvency II, qui l'empêche. Donc il faut, alors le ministre de l'économie s'en est saisi, mais enfin c'est une réglementation européenne, c'est extrêmement long à faire varier. Si vous prenez même l'épargne salariale, il y a une réforme de l'épargne salariale, mais rien, quasiment rien va vers le financement des entreprises. Et le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines que 5 milliards iraient à l'innovation de niveau 2. C'est ridicule. Rien que Vision Fund, c'est 100 milliards.
Le fonds japonais.
Le fonds japonais qui a financé, entre autres, WeWork. Mais bon,
qui est l'exemple de l'investissement de long terme.
Exactement.
Vous dites d'ailleurs qu'il faut qu'on sorte des financements boursiers.
En fait, ce qui est le paradoxe, c'est que effectivement, en Europe, on donne beaucoup de leçons de morale aux Américains, mais c'est eux qui pensent le long terme, et nous, on est dans le court terme, puisque la finance européenne est sur le court terme. Et très concrètement, si on revient au niveau des entreprises, vous avez des entreprises comme Carrefour ou Casino, qui sont pilotées au trimestre, indépendamment des dirigeants, là où Amazon a pu faire pendant 18 ou 20 ans des pertes. Et c'est difficile de lutter quand vous avez des entreprises qui ont un modèle économique borné, défini, par des indicateurs trimestriels par rapport à ceux qui ont la capacité de penser à 10 ou 15 ans.
On a déjà 10 ans de retard, vous nous dites. Le mouvement n'est pas franchement initié, si je comprends bien. L'économie de la donnée impose en plus de hautes barrières d'entrée aux nouvelles entreprises quand elles essayent d'intégrer le secteur. Donc, vous êtes optimiste quant à la capacité de l'Union européenne à développer une tech ?
À date, je ne vois pas de mesures très fortes, mais la nouvelle Commission européenne a défini un certain nombre de premiers éléments de politique, on va dire. Dans les faits, il y a l'ambition de construire un fonds à 100 milliards, ce qui est à peu près l'équivalent de Vision Fund, qui est l'échelle d'une entreprise. Enfin, voilà. Je rappelle que le budget de R&D de Amazon annuel, c'est 22 milliards. Voilà, et donc la France seule veut mettre 5 milliards. Bon, ça pose quand même un certain nombre de questions, même si on peut pas tout comparer. Donc il y a un vrai sujet de financement, il y a un vrai sujet d'éducation en fait des élites politiques qui semblent extrêmement éloignées en Europe de cet enjeu-là. On se moque souvent de Trump ici, mais par exemple la décision en Europe, je veux dire, la décision autour du Huawei, ça a des conséquences considérable, et ce sont des éléments tactiques majeurs dans la construction du positionnement de la tech américaine face à la tech chinoise. Nous, en Europe, on est un peu observateurs de tout ça.
Et on va être colonisé numériquement, vous le dites comme ça?
Si on ne réagit pas, on va devoir faire le choix entre la colonisation américaine ou la colonisation chinoise. Mais en soi, on a de toute façon intérêt à développer au maximum ce qu'on peut faire, et surtout ne pas choisir de l'affrontement.
Qu'est-ce que vous attendriez aujourd'hui raisonnablement de la puissance publique française ?
La France seule ne peut pas grand-chose, en fait. Il faut absolument trouver une forme d'alliance européenne, au moins avec l'Allemagne. Il y a une initiative, par exemple, autour du cloud européen, donc qui sont des initiatives intéressantes, mais ça peut ne se faire qu'à l'échelle européenne, parce que à l'échelle française, malheureusement, nous sommes trop petits.
Merci beaucoup, Mathieu Courtecuis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le saut cognitif, aux éditions First. In the middle of the night,
On se quitte avec Chromatics et leur reprise du célèbre titre de Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun. La semaine prochaine, L'Économie s'écrira en toutes lettres, nouvelle série consacrée au lien entre argent et littérature, avec une première émission consacrée à lundi à la fabrique des best-sellers. Mardi, nous verrons comment le théâtre met en scène le marchand et l'échange, avant d'examiner les points communs entre le langage et la monnaie. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi.